Eh bien, on va commencer déjà par les présentations. Alors, évidemment, vous êtes nombreux dans le studio. On va commencer par vos prénoms. Après, vous allez peut-être vous présenter brièvement, en tout cas ceux qui parleront. Alors, nous avons Simon, Anthony, Pamela, Moirzik, Mariné, Asma, Yann, Jean-Luc, Katharina et Alexis. Bonjour à vous tous. Alors, bonjour. Vous pouvez me faire un grand bonjour collectif dans le studio.
Bonjour.
C'est d'ailleurs la première fois qu'on accueille autant de monde dans l'émission Sortez et puis dans le studio de Radio Campus Tour. Donc bienvenue à vous tous. Alors pour présenter évidemment le cadre de votre venue, vous faites partie de l'école de la deuxième chance. Alors évidemment, on va voir ce que ça signifie et quel est le but de cette école. D'ailleurs, on va peut-être commencer par ça avec Yann, c'est bien ça, hein ?
C'est bien ça.
Voilà, que je me trompe pas dans les prénoms. Alors Yann, on t'écoute. Qu'est-ce que l'école de la deuxième chance ?
Alors, l'école de la deuxième chance, c'est un organisme de formation dirigé vers l'insertion professionnelle, présente sur toute la France, près de 108 sites, je crois. Elle est dédiée aux personnes qui ont entre 18 et 30 ans, sorties du système scolaire depuis au moins un an, et désirant soit trouver leur projet professionnel, soit le mettre en place, sur une façon de fonctionner qui est basée sur 40% d'entreprises et le reste en centre de formation.
Donc c'est de l'alternance en fait.
C'est de l'alternance, voilà.
Okay.
Chaque formateur référent, comme je le suis, donc est référent d'un groupe de stagiaires, mais avec qui on travaille les savoirs de base, le français, les maths, l'anglais. Il y a des intervenants comme Jean-Luc qui est avec nous aujourd'hui pour des ateliers d'écriture, de l'informatique, du théâtre. Voilà, donc un ensemble pour remettre un petit peu les bases. Et puis, en fait, ils sont 3 semaines donc en centre de formation, puis 2 semaines en stage, et ainsi de suite. Donc, pour la plupart, ils arrivent sans réel projet, enfin en tout cas pas clairement défini. Et puis donc le 2C est là pour les aider à petit à petit faire un projet cohérent et qui puisse se réaliser.
Et alors du coup, l'école de la deuxième chance, est-ce qu'elle délivre un diplôme officiel ?
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Il n'y a pas de diplôme à la fin. Le but pour nous, ce qu'on appelle une sortie positive, c'est que le stagiaire ou la stagiaire parte soit vers une formation justement diplômante, qualifiante, soit directement à l'emploi, ce qui est possible dans certains cas.
Quel est l'avantage justement de l'alternance ? Est-ce que ça permet justement de faire ses premières armes dans une entreprise et de s'aguerrir ou c'est quelque chose qui a été voulu par l'école de la deuxième chance pour former les jeunes ?
Un petit peu de tout ça en fait. Les stages ont plusieurs intérêts. Le premier pour certains, c'est tout simplement de découvrir le milieu de l'entreprise que certains n'ont jamais connu. Pour d'autres, c'est d'essayer des métiers qu'ils ne connaissent pas pour voir s'ils ont envie d'aller plus loin dans le projet. Et puis pour d'autres, c'est quand on arrive à un moment où ils sont relativement proches de l'accès à l'emploi, c'est de se faire connaître, tout simplement. S'ils font un stage pendant 2 semaines et que ça se passe très bien, ils peuvent tout à fait être appelés par la suite par l'employeur. Donc ça a plein d'avantages.
Alors du coup, je me tourne vers ces jeunes justement en question, qui sont là autour des micros. Alors du coup, Anthony, Pamela, Katharina et Alexis, c'est ça ? C'est tombé sur vous quatre hein, en premier. On fera peut-être un petit tour, ou en tout cas ça va peut-être tourner tout à l'heure pour ceux qui parleront. Est-ce que vous avez envie de nous parler de cette école, vous, peut-être votre ressenti ? Pourquoi vous avez décidé d'intégrer cette école ? Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez tout simplement ? Qui commence ? Qui a envie de se jeter à l'eau ? Anthony, allez, je te sens motivé.
Donc, en fait, j'ai intégré l'école de la deuxième chance par le biais du Pôle emploi. Parce que du coup, je cherchais une formation pour pouvoir me réorienter. J'étais dans le commerce avant, et du coup, je voulais me lancer dans l'animation pour les enfants. Donc, j'ai fait toutes les démarches pour pouvoir intégrer l'école. Ils m'ont demandé si j'avais déjà un projet à peu près défini, donc ce qui était déjà le cas. Ça m'a quand même pas mal apporté, sachant que j'ai pu faire mes premières armes en animation. J'ai pu effectuer plusieurs stages. Là, je suis rentré dans une association avec qui je travaille depuis le mois d'octobre, et avec laquelle je vais pouvoir passer un diplôme qui me permettra de pouvoir travailler par la suite avec eux.
Alors du coup, c'est une bonne expérience pour toi ?
C'est un projet qui se déroule très très bien. et qui finira certainement parfaitement à la fin.
Et comment tu l'as connue justement cette école? Est-ce que toi-même t'as fait les démarches pour,
bah,
pour
en fait, chercher? Au départ, j'ai recherché sur Internet, tout simplement. Et du coup, de fil en aiguille, ils demandaient. On a eu des réunions d'information. Après, ils nous ont fait passer devant un jury. C'est là qu'il fallait se battre pour obtenir sa place, on va dire. Et du coup, bah, de fil en aiguille, ça a dû sûrement leur plaire. Au final, que j'ai un début de projet ouais. Viable. Et du coup, voilà.
C'est vrai que ça aide déjà d'avoir un projet ou au moins une petite idée de ce qu'on veut faire ou dans quel secteur on veut se réorienter. Parfois, ça permet de cibler et de cadrer. Alors, les autres, ouais, tu vois, c'était pas si terrible, Anthony. Les autres qui sont autour du micro, est-ce que quelqu'un a envie de me parler et de nous parler de son parcours? Pamela, non? Tu as envie de parler de ce qui t'a amené justement dans cette école?
En fait, j'avais aussi besoin de faire une formation, c'est pour ça que je suis venue à l'EDC.
Quoi comme formation, du coup?
Au début, je n'avais pas de projet, et c'est à l'EDC que j'ai construit mon projet.
Et du coup, le projet, est-ce que tu peux nous en dire plus?
Ouais, là, je suis dans la restauration collective.
D'accord. Je me tourne à ma droite, Alexis, Katharina, à vous. Allez, qui prend la parole? Allez, Alexis, on t'a désigné.
Moi, je suis entré à l'EDC parce que je voulais en fait changer d'orientation. À la base, j'étais en. Et j'ai des gens de ma famille qui travaillaient dans d'autres secteurs et ça me plaisait, je voulais découvrir. Et du coup, je suis rentré à l'école et j'ai pu commencer ce projet.
Et alors du coup, de la menuiserie, tu veux passer à quoi maintenant? Quel
dans
projet?
Dans les espaces verts.
D'accord, ok. Ok, d'accord. Très bien, beau projet.
Ouais.
Et du coup, on termine par Katharina. Ah, tu vois, valait mieux passer en premier, comme ça, après c'est fait. Et... Allez, on t'écoute. Qu'est-ce qui t'a amené à l'école de la deuxième chance? C'est une vaste question. Bon, sinon on passe. Quelqu'un d'autre a envie d'évoquer son projet? Non, vous voulez pas nous dire votre ressenti? Bon, en tout cas, on va peut-être retourner sur la formation, en tout cas de l'école, ce qu'elle propose. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous proposez justement en termes de matière? C'est peut-être pas le bon mot, mais en termes de formation tout simplement.
Ben en fait, c'est les matières, donc comme je disais, de base, donc français, mathématiques, avec des niveaux qui sont différents suivant chaque stagiaire. Donc il faut savoir s'adapter et individualiser la formation au mieux pour chacun. Il y a un intervenant, Mohamed, qui s'occupe du théâtre, donc qui leur permet de travailler et la mémorisation et la façon de s'exprimer en public, par exemple, ce qui est toujours utile pour un entretien ou d'autres choses comme ça. On a Jean-Luc ici présent, donc, qui fait des ateliers d'écriture, qui leur permet aussi parfois non seulement de travailler l'écriture en elle-même, mais aussi parfois de parler de choses qu'ils ont un peu plus de mal à exprimer par la voix. De l'anglais, avec Swad, donc, qui leur pose les bases, hein, bien sûr. En ce qui me concerne, moi, je suis là pour les accompagner et puis travailler aussi les matières comme le français ou les mathématiques. Et en essayant toujours de faire en sorte que ces apprentissages soient vraiment dirigés par rapport à leur projet. Par exemple, Simon ici présent, qui est en cuisine, va travailler plus particulièrement les règles de trois et les choses comme ça, puisque c'est ce qu'il va travailler dans les recettes. Quelqu'un qui veut se diriger vers la jardinière, les espaces verts, va peut-être plus travailler sur les surfaces, les choses comme ça. Voilà, c'est relativement individualisé.
Alors justement, toutes ces formations différentes, ou en tout cas ces compétences différentes qu'il faut enseigner à chacun qui est différent, et évidemment en fonction de son projet, ça nécessite une équipe, et j'imagine aussi une équipe assez conséquente.
Bien sûr,
il faut avoir plusieurs.
Donc bon, déjà le 2C à Tours fait partie de la FPP, qui est donc un organisme de formation. Au sein même de le 2C, donc il y a Bruno Libaud le directeur, Anne-Marie et Sophie qui sont les responsables formation et pédago. Ensuite, nous sommes 7 en tout formateurs. Donc Étienne, Frédéric, Alfred, Hélène, Carole, je parle des formateurs qui sont en permanence présents. On a Waïd en référent social. On a Mireille et Nadia ensuite qui sont au secrétariat. J'espère n'avoir oublié personne. Et voilà, donc ça fait un petit peu de... Et Séverine, c'est tout à fait vrai, avec Séverine et puis Elisabeth qui sont donc les responsables du pôle entreprise. Elles sont vraiment là pour faire la charnière entre ce monde qu'ils vont connaître pendant les stages et puis l'école.
Pour combien d'élèves du coup au total?
À l'année, c'est 200 stagiaires. Alors, on parle de stagiaires et non d'élèves parce qu'en fait, même si le terme est utilisé d'école, on est dans de la formation pour adultes.
D'accord, voilà. Ok, donc plutôt stagiaires et non...
Sur l'antenne en tout cas de Tours, c'est 200 stagiaires et on est relié à un deuxième site qui est celui de Blois où là il y a à peu près 75 stagiaires à l'année.
Alors j'ai vu que dans les formations que vous proposiez, il y a le sport. Alors je vais pas vous le cacher, je suis un passionné de sport. En quoi c'est utile de finalement dispenser du sport? Est-ce qu'il y a certains stagiaires aussi qui se destinent au métier du sport dans votre école?
Que je connaisse pas actuellement, mais ça peut arriver. Il y en a qui peuvent avoir le désir d'être coach sportif dans certains cas. Le sport est aussi fait pour c'est un ensemble en fait. Hein. On est vraiment là pour de l'insertion professionnelle, mais aussi sociale. Je sais que les sports d'équipe, par exemple, peuvent avoir beaucoup d'intérêt dans ce créneau-là. Mais c'est peut-être plus à eux de vous dire ce qu'ils aiment dans le sport et pratiquent.
Alors, est-ce que le sport est important pour vous? Au sein de l'école, est-ce que vous en faites ou pas spécialement? Non, pas. Je vois
Alexis.
C'est pas plus important, c'est important quand même, mais on le fait surtout parce qu'on n'a pas le choix. Quoi.
voilà, tu vois, tu fais bien de le dire. Non, mais alors, voilà, c'est des matières qui sont dispensées, qui sont obligatoires, du coup.
Là, c'est par l'UFOLEP, en l'occurrence. Okay. Et obligatoire, oui, enfin obligatoire. En fait, quand ils arrivent, c'est une entente entre eux et nous. On leur propose une formation. Mm-hmm. Ils l'acceptent avec tout ce qu'elle peut comporter. On signe un contrat ensemble. Donc voilà, il y a des choses qui sont importantes. Et donc effectivement, après, on ne va pas choisir entre guillemets ces matières à la carte.
Est-ce qu'on peut parler aussi des locaux, parce que finalement on n'a pas parlé où elle se situait cette école. Voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots?
Alors ça se situe donc dans les bâtiments de la FPP, au 14 boulevard Preuilly, à Tours. On n'est pas très loin du lycée Baillet, lycée hôtelier par exemple, pour donner un petit point de repère. Et donc nous nous situons au troisième étage. Donc il est bon de se renseigner régulièrement puisqu'il y a des informations collectives assez régulières.
D'ailleurs, une aujourd'hui, hein, c'est bien ça, à 14h.
C'est exactement ça. Et donc ensuite, comme l'expliquait Anthony, les stagiaires, pour ceux qui après l'information collective sont intéressés, passent donc devant un jury composé en général d'un formateur donc de l'EDC, un professionnel. Donc ce sont des partenaires de l'école qui... la gentillesse de se déplacer, et un partenaire social. Donc là, ça peut être mission locale, Pôle emploi ou autre. Et donc, à l'issue, quand tous les prérequis sont réunis, eh bien, ils peuvent intégrer un groupe au sein de l'EDC.
C'est le moment que tout le monde attend. Je vais me tourner vers Simon qui a ramené son instrument. J'imagine que c'est le tien. Simon, tu vas peut-être nous en parler. Alors, qu'est-ce que c'est que cet instrument? Tu vas nous en jouer pour faire une petite pause musicale. Est-ce que tu peux nous en parler brièvement et puis après on va t'écouter?
Bien sûr. Alors, pour expliquer un peu globalement l'instrument et brièvement, c'est un couple suisse qui l'a fabriqué dans les années 2000 à peu près. Donc c'est vraiment un instrument très très récent, hein, et qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais quoique plus en ce moment. Et donc voilà, c'est un instrument de percussion, mais avec des notes. Donc c'est assez particulier, et voilà.
Et il s'appelle comment cet instrument?
Hang, ça s'appelle un hang.
Oui, et alors pour le décrire un peu, c'est une espèce de, de cercle métallique, ou en tout cas une petite plateforme métallique avec des creux, hein, voilà, je suis pas très fort en description, mais...
Ça ressemble un peu à une coquille de tortue.
Oui, voilà, oui, c'est vrai, ça fait un peu une carapace de tortue, sur lequel le son fait assez aquatique, hein, comme dirait Mélissa, qui est d'ailleurs dans le studio, j'ai oublié de te présenter, Mélissa. On va t'écouter, évidemment, Simon, et puis voilà, on va t'écouter, tout simplement, jouer de cet instrument. C'est parti. Thank you. Simon, et merci beaucoup. Alors pour le coup, on va peut-être recommencer l'émission par toi, ou en tout cas continuer avec toi. Où est-ce que tu as appris à jouer cet instrument? Est-ce que
ça ne s'apprend pas? Du coup, c'est un instrument, on va dire, où il n'y a pas vraiment de leçons. Hein. C'est vraiment où on apprend sur le tas, où on a l'instrument dans les mains, et puis c'est vraiment au feeling. Et puis comme moi, pour le coup, j'ai eu, on va dire, une notion, enfin. Étant petit, étant très musicien, j'ai fait de la guitare, de la batterie, beaucoup de djembé, donc on va dire que c'est vraiment mon dada. Et l'avoir un instrument avec, on va dire tout simplement un djembé avec des notes, c'est juste magique. Enfin, c'est magnifique. Enfin, on s'amuse comme un petit fou.
Oui, puis c'est vrai que c'est de la percussion finalement.
Oui,
le son est assez étrange. On n'a pas non plus l'habitude de l'entendre, mais c'est doux. Hein. C'est vraiment une musique assez douce. En tout cas, merci beaucoup à toi, Simon. On va rebondir peut-être sur les ateliers, parce que j'ai cru comprendre que vous organisez des ateliers, notamment théâtre et aussi poésie, c'est ça? Ou en tout cas, vous
créez... Atelier d'écriture. Ouais.
Atelier d'écriture, d'accord. Donc c'est ce qui chapote un peu les deux ateliers.
Je vais peut-être passer la parole justement à celui qui est concerné.
Allez.
Voilà, Jean-Luc.
Alors, ces ateliers d'écriture. C'est bon, Jean-Luc, niveau technique, il n'y a pas de problème, vous nous entendez bien? Alors, on vous écoute. Qu'est-ce que c'est ateliers d'écriture? Comment ils s'organisent un peu? Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça?
En fait, je suis auteur, écrivain. Donc, Jean-Luc Alarima Nana, mon nom d'auteur. Et ce qui fait que je suis intervenant extérieur à l'école. Donc, j'amène ma compétence, c'est-à-dire l'écriture. Et j'écris des romans, des pièces de théâtre, de la poésie. Et j'ai été sollicité par l'EDC justement pour que on puisse intervenir à ce niveau-là. Ce sont des jeunes qui ont un parcours particulier. Et moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas forcément de leur trouver du travail ou de leur donner une formation, mais c'est vraiment de leur donner une certaine liberté dans l'expression, de leur donner une certaine aisance par rapport à leur propre histoire. Et c'est ça ce que j'essaie de développer, de pouvoir dire aussi que chacun d'entre nous, avec notre vécu, on peut en faire de l'écriture.
Et alors, comment elles sont ces pièces de théâtre, ou en tout cas ces ateliers d'écriture, comment ils se déroulent concrètement? Est-ce que vous leur proposez des textes? Est-ce que c'est eux qui créent leurs propres textes? Comment ça se passe?
Ils créent eux-mêmes leurs propres textes. Je les ai mis d'abord devant la feuille blanche. C'est d'abord ça, la première des choses, et de dire que ce n'est pas une contrainte. La page blanche n'est pas un frein, ce n'est pas un trou noir.
Faut pas en avoir peur.
Faut pas en avoir peur, mais au contraire, c'est un espace de liberté. Et donc, à partir de là, on peut tout écrire. Il n'y a pas de censure, il n'y a pas de consignes thématiques. Chacun d'entre nous portons notre histoire. Et finalement, nous avons le brouillon pour pouvoir commencer quelque chose. Ne pas la finir si on ne veut pas finir, explorer ce qu'on a envie de dire ou même ce qu'on n'a pas envie de dire. C'est peut-être même plus intéressant de voir qu'est-ce qu'on n'a pas envie de dire. Et à partir de là, chacun d'entre nous, chacun d'entre les stagiaires, eux, ils commencent à écrire, chacun à son rythme. Certains prennent un rythme très très lent, d'autres beaucoup plus rapide. Et comme on a toute leur présence à l'EDC pour écrire quelque chose, et je ne me presse pas. Le but n'est pas d'arriver à un texte fini au bout de la séance. Et moi, j'arrive avec des consignes simples, avec quelques mots, avec quelques observations autour de soi, et puis comment passer de l'extérieur de soi vers l'intérieur de soi. Et c'est tout ce travail-là. Et évidemment, au fur et à mesure, j'introduis des textes d'auteurs, de poètes, ça dépend de qu'est-ce qu'ils cherchent, ces jeunes. Et donc, dans un premier temps, je les observe et puis au fur et à mesure, je vois quels sont leurs intérêts. Et je choisis les auteurs ou les livres par rapport à leur intérêt.
Oui, voilà, on s'adapte aussi en fonction de leur intérêt, leur point de vue sur les différents thèmes.
Oui, mais surtout, je les pousse, j'essaie de les pousser assez loin. Souvent, ils disent, oui, mais c'est dur l'atelier d'écriture, parce que pas forcément à cause de l'écriture, mais de ce que eux, ils vont pouvoir mettre dans l'écrit. Et du coup, il y a des choses dures de leur propre vie qui ils sont en face de ça, et parfois c'est pas facile.
Alors justement, je vais me tourner vers les stagiaires. Comment vous les voyez justement, ces ateliers d'écriture? Est-ce que vous les appréciez déjà? Est-ce que c'est pour vous une forme aussi de coucher des idées ou même votre projet éventuellement sur le papier? Qu'est-ce que vous en pensez de ces ateliers d'écriture? Est-ce qu'ils sont si terribles que ça, si durs que ça? Alors, qui veut se lancer?
Moi, je vais me lancer, du coup, mais pour dire qu'au début, quand on a su qu'on allait faire des ateliers d'écriture, c'est vrai que ça a été compliqué, dans le sens où on s'est dit ça va peut-être être trop long. Et du coup, au début, c'est vrai que les consignes, elles étaient vraiment dures à appliquer, en fait, même à comprendre. Et c'est vrai que maintenant, ça fait combien de temps? Ça va faire
3, 4 mois.
Ouais, 5 mois. 5 mois. 5, 6 mois. qu'on fait ça. Et qu'au final, après beaucoup de réflexions, en fait, ça vient assez facilement. Enfin, ouais. Pour certains, c'est vrai que ça vient assez facilement. Et c'est vrai qu'après, il faut comprendre que, en fait, sur la base d'une phrase, après, il faut arriver à développer l'idée qu'on va en faire, en fait. Mm-hmm. Et c'est vrai que c'est un peu un thème, hein. c'est un peu métaphorique, en fait. Mm-hmm. Et c'est vrai que coucher, en fait, ses idées sur
papier, c'est pas évident, hein. C'est pas
évident. Et comment dire, voilà. Enfin, je saurais pas comment finir cette phrase, mais
non, mais c'est vrai que mettre des mots, en tout cas, sur une idée, c'est assez compliqué parfois. Hein.
Après, c'est vrai que au final, ça peut très bien être inventé, mm-hmm. et que ça ait à voir avec notre vie passée, en fait.
Ouais.
Et c'est vrai que ça peut être aussi un bon moyen de comment dire, de se libérer, en fait, de certaines, de choses qui nous pèsent, en fait. Mm.
Alors justement, est-ce que vous avez éventuellement quelque chose, un exemple de ce que vous avez pu écrire que vous pouvez nous lire ou nous citer, nous parler? Est-ce que je te vois avec un texte, Anthony? Est-ce que c'est un exemple d'écriture,
c'est des exemples. Enfin, c'est tout le travail qu'on a fait depuis 6 mois.
Ok. Dans l'atelier d'écriture.
C'est
hein,
ça.
D'accord. Ok. Et donc, est-ce que tu peux nous en lire un morceau? Alors, quelqu'un d'autre, hein, parce que Anthony a pris la charge de la parole, ce qui est très bien, hein, d'ailleurs. Mais si quelqu'un d'autre veut se lancer, c'est maintenant ou jamais.
Bah moi, je veux bien déléguer ma place à quelqu'un, parce que j'ai beaucoup parlé, je trouve.
Alors, qui veut se lancer à la place d'Anthony?
Et là, moi, j'ai pas monté.
Bah, je peux le donner, hein. Alexis.
Alors, du coup, on distribue, hop, les textes. Alors, qui prend la parole?
Bah, moi, je veux bien. En fait, j'ai fait une phrase. Enfin, à partir de quelques mots, en fait, il fallait faire une phrase. Une phrase qui a un sens. Comme moi, j'avais nous, peinture, lumière, trou, trace, saleté. Mm-hmm. Et au début, c'était difficile, en fait, de trouver, parce qu'en fait on se dit qu'avec ces mots-là on peut rien faire, mais en fait moi j'ai fait une phrase: nous sommes tous en quête de peinture pour laisser des traces d'histoire sur un tableau ébloui de lumière.
Et ça c'est toi qui l'as fait, ouais, hein, c'est ta phrase.
Moi, ça.
Ah oui, du coup ça fait une phrase
c'est assez compliqué,
mais elle est
sur le coup,
ouais, mais elle est assez profonde, cette phrase, finalement. Du coup c'est quelque chose qui est assez philosophique, aussi, c'est
quand on y pense bien. Ouais. Mais c'est pas facile.
Est-ce que on a un autre exemple, Pamela? Est-ce que tu veux nous lire un passage ou quelque chose que toi tu as fait, j'imagine?
Oui. Avec les mots comme vient de dire Anthony et pardon Alexis. Donc la peur, ces moments inquiétants qui traversent tout le monde, ne peut être remplacé par l'oubli. En prenant la vie du bon côté, on arrive toujours à oublier toutes les traces des mauvais souvenirs qu'elle nous a faites. Les temps qui s'écoulent entre les événements vécus et celui qu'on vit actuellement nous aident à avancer. La peur est considérée comme un blocage. La remplacer par l'oubli aide à passer à autre chose. Les étapes difficiles de ma vie restent derrière moi. Quand on a envie, on doit regarder devant. Je me suis toujours demandé si cela était bon ou mauvais de naître dans un pays tel que le mien. Non, parce qu'à cause de ça, je réussis dans l'idée de me battre pour obtenir ce que je voulais. Oui, parce que j'ai perdu une partie de mon enfance.
Aussi, un texte très profond. Merci à toi, en tout cas, de nous avoir partagé ça. On va peut-être prendre un troisième et dernier exemple. Qui veut se...
Je voudrais bien tenter quelque chose au Katharina, hein, avec Simon, avec la musique.
Ouais. Alors parler en même temps que la musique.
Oui.
Allez. Alors je pousse le micro vers le langue, c'est ça?
Le langue. Oui. Le langue. Allez, c'est vrai, à dériver.
Vas-y, Simon. Nous sommes tous des peintures différentes, attirés par la lumière de nos espérances, en essayant d'éviter les trous noirs qui nous accoutument à la neutralité du quotidien monotone que l'on peut avoir. Sans oublier les trous qui nous ont menés jusqu'ici, sans oublier les traces qui nous ont menés, couverts ou non de saleté jusqu'ici. La jeunesse est source d'imprudence et d'insouciance, remplie d'erreurs qu'il ne faut pas reproduire, mais aussi une fontaine de gaieté partagée entre impureté et clarté avec nos choix, bons ou mauvais. Je ne sais pas par où commencer, ni par quelle partie prendre. Au fin fond de la côte est du Brésil, dans une des nombreuses favelas de Recife, une femme enceinte, seule, avec son premier enfant, erre de foyer en foyer dans une misère grandissante jusqu'au jour où elle rencontre.
Bravo! Oula.
C'est le texte de Simon qui a joué.
Ah bah, double bravo alors du coup. Non, c'est vrai que bah, pour le coup, c'est avec la musique, ça se marie plutôt bien. Hein, le texte comme ça et la musique un peu douce, ça fait mélancolique aussi un peu, c'est vrai. Le texte déjà et puis la musique, non? Qu'est-ce que t'en penses, Simon?
Enfin, oui, surtout que là, j'ai pas essayé de faire un truc assez... plus, on va dire plus sobre que un truc assez joyeux, puisque mine de rien c'est une histoire qui touche, hein, mine de rien, enfin pour moi en tout cas. Et donc oui, j'ai plutôt voulu faire quelque chose de sobre que gay, enfin voilà, c'est compliqué à décrire.
Bon, en tout cas, c'était ça fait un super résultat avec la hang. Voilà, il faut que je retienne ce nom d'instrument. D'ailleurs, je pense qu'on va t'écouter une dernière fois en fin d'émission, en tout cas pour clôturer l'émission sur la musique. On va peut-être revenir sur les petites informations, en tout cas sur l'actualité un peu de l'école de la deuxième chance, peut-être avec toi, Yann. Donc la prochaine information collective, on l'a dit, c'est aujourd'hui à 14h. Celle d'après, est-ce qu'on peut en parler, savoir aussi si l'école propose des journées portes ouvertes pour sensibiliser et pour recruter tout simplement, ou en tout cas pour faire venir des gens.
Alors des journées portes ouvertes, pas spécialement, mais la première partie de la formation, une fois qu'ils intègrent le dossier, c'est une période de 5 semaines, qui est une période d'essai justement, dont 2 semaines qui vont servir en centre à un petit peu voir à quel niveau ils ont et comment... sur quel point il faut axer la formation. 2 semaines aussi en entreprise pour un premier stage. Et puis enfin une semaine où ils sont vraiment mis dans un planning typique d'une semaine à l'E2C avec tous les formateurs qui peuvent intervenir sur le groupe. Donc de cette façon, en fait, ils peuvent voir si effectivement ça coïncide ou pas et choisir de continuer ou pas, comme nous on peut choisir de continuer ou pas.
Et alors du coup, pour les petites informations pratiques, donc l'école se situe au 14 boulevard Preuilly, hein, c'est bien ça, c'est dans le centre de Tours. Hein.
Oui, enfin dans le centre, c'est bord de Loire plutôt.
Bord de Loire, voilà, pour être plus précis. Est-ce que on peut citer éventuellement un site internet? Est-ce que vous l'avez en tête?
Il suffit de taper E2C Tours et on tombe automatiquement...
En tout cas, c'est
proposé tout de suite, donc E2C pour école de la deuxième chance.
Ça c'est pour les petites informations...
Infos collectives... renseignements, témoignages de stagiaires, enfin voilà, on peut vraiment trouver de tout. On peut aussi nous contacter. Une partie des stagiaires arrive par le biais d'une prescription, donc d'un responsable à la mission locale ou de Pôle emploi ou autre. Certains viennent d'eux-mêmes parce qu'ils ont entendu parler de nous. Donc voilà, c'est assez vaste.
Eh bien, en tout cas, merci à vous tous d'être venus ici dans le studio de Radio Campus Tours. 9, hein, si je me trompe pas, en tout cas une petite dizaine. Un record, voilà, vous avez le record du nombre de personnes dans le studio. On va peut-être écouter une dernière fois Simon, si tu veux bien nous jouer encore une dernière fois pour clôturer l'émission de la Hang. Ça serait super.